Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l'évangile de Marc. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ian. Oui, et nous lisons une fois de plus un passage bien connu, celui où le Seigneur marche sur les eaux.
Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur !» Puis il monta auprès d'eux dans la barque. Le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur, car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée.
Deux choses sont étonnantes dans ce récit. Tout d'abord, Jésus marche sur les eaux. Puis, la réaction des disciples. Ceci nous surprend aussi.
Oui, examinons donc ces deux points. Le miracle lui-même d'abord. Pourquoi Jésus a-t-il marché sur les eaux? Il semble que les disciples se trouvaient en difficulté à cause de la tempête et que le Seigneur allait vers eux pour les aider.
D'accord, mais il y a aussi une leçon spirituelle à tirer. Le Seigneur Jésus n'a pas agi de la sorte, par hasard.
Bien sûr que non. La leçon principale est, une fois de plus, la divinité du Seigneur Jésus. Il est Dieu fait homme et il exerce une souveraineté totale sur la nature. Une fois de plus, ce pouvoir de marcher sur l'eau nous renvoie à des passages de l'Ancien Testament, où Dieu y est décrit de manière poétique comme marchant sur les eaux et comme ayant un contrôle absolu sur la mer. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 9, verset 8, Dieu nous est présenté à la fois dans sa force créatrice et en train de se déplacer à pied sur les eaux.
Marc invite donc ses lecteurs à faire le rapprochement avec Jésus.
Oui, certainement. Les lecteurs qui connaissaient l'Ancien Testament établissent ces parallèles et ils comprennent que le Seigneur Jésus est aussi puissant que Dieu. Car tout comme pour le Dieu de l'Ancien Testament, la mer et le ciel obéissent au Seigneur Jésus. Nul doute, il est bien Dieu venu sur terre sous forme humaine.
Et en quoi ce passage nous aide-t-il aujourd'hui ?
Eh bien, à part le fait que ce passage confirme la divinité du Seigneur, il nous rappelle aussi que nous avons un Seigneur qui contrôle l'univers entier. Nous ne devons donc pas avoir peur. En effet, Jésus nous aime, il est là pour nous protéger. Cette histoire est particulièrement significative pour les Israélites parce que, traditionnellement, ils ont toujours eu peur de la mer. Contrairement à d'autres peuples, ils n'ont jamais aimé naviguer. C'est sûrement pour ça que Dieu se présente comme celui qui domine la mer. Il est celui qui contrôle les éléments marins. De plus, pour des pêcheurs comme les disciples, bien que la mer soit leur élément, elle représente cependant pour eux la source principale de danger. Quelle est la chose que les pêcheurs craignent le plus? Ce sont les tempêtes. Jésus leur montre donc qu'il a le pouvoir de les protéger de la situation la plus dangereuse qui soit. Et c'est bien sûr un message qui nous encourage, nous aussi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Nous avons tous peur de quelque chose, peut-être des tempêtes, de la maladie ou de la violence des hommes. Le verset 50 s'applique à nous aussi. À nous aussi, Jésus dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. le Seigneur est avec tous ceux qui le connaissent. Combien de fois dans les psaumes lit-on que le Seigneur est notre force, notre roc, notre bouclier? Il y a beaucoup d'images pour exprimer le fait que le Seigneur nous protège. Pourquoi ces images sont-elles répétées si souvent? Parce que le Seigneur sait bien que nous avons besoin d'être rassurés.
Il est vrai que nous avons toujours besoin de nous rappeler ces exhortations. Dieu est non seulement notre Père, mais il est aussi tout-puissant. Comme le déclare le psaume 121, « D'où me vient le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Malgré tout, on voit dans ce passage que les disciples n'ont pas été rassurés, au contraire, et Marc confirme au verset 52 qu'il manquait de foi.
Oui, c'est vrai. Dans un sens, je suis tenté d'excuser les disciples. J'essaye de me mettre à leur place. Cela devait être vraiment incroyable de voir le Seigneur marcher sur la mer pendant une nuit de tempête et de réaliser que le vent et la mer lui obéissent. Je me rappelle d'un prédicateur qui a un jour prêché sur le chapitre 4. Il s'agit du passage où la barque est sur le point de couler et où le Seigneur calme la tempête. Ce prédicateur s'est exclamé « Je ne sais pas ce qui fait le plus peur, couler dans une tempête ou avoir Dieu lui-même dans sa barque ?» Cela dit, il est vrai que Marc insiste sur le manque de foi des disciples. Il dit au verset 52 qu'il n'aurait pas dû être surpris, parce que Jésus avait déjà accompli d'autres miracles, en particulier celui de la multiplication des pains. Ils auraient dû comprendre qui était Jésus et avoir foi en lui. Pour nous aussi, le problème est le même. Comprenons-nous qui est le Seigneur Jésus? Sommes-nous conscients de sa puissance et de son autorité? Cela nous est-il déjà arrivé, tout comme les disciples, d'avoir été délivrés par Dieu dans le passé d'une situation difficile et d'avoir aujourd'hui peur à cause d'un autre danger? Ou peut-être le Seigneur a-t-il répondu à nos prières en une certaine occasion, mais dès que nous affrontons une nouvelle épreuve, nous doutons que Dieu puisse nous aider.
Oui, je pense que tous les chrétiens, tôt ou tard, vivent cela. Nous manquons toujours de foi et nous oublions que dans le passé, le Seigneur a répondu tant de fois à nos prières.
Oui, et ce qui est important dans ce passage, je crois, c'est que la foi vient de notre compréhension. Voyez-vous, Marc ne dit pas que les disciples n'avaient pas encore la foi, il dit qu'ils ne comprenaient pas. Notre manque de foi vient du fait que nous ne comprenons pas qui est Dieu, ni à quel point son pouvoir est infini.
Nous devons donc le prier pour qu'il nous fasse comprendre qui il est et quel Dieu puissant nous avons.
Oui, et une bonne manière de faire cela est de méditer longuement sur les passages qui parlent de sa gloire et de sa puissance. Par exemple, le psaume 139 ou le chapitre 40 d'Ésaïe sont des passages à lire, car ils nous rappellent la grandeur de Dieu.
Merci Stéphane pour ces réflexions.
Merci Ian.
Cette série sur l'évangile de Marc, chapitre 6, touche à sa fin. Et nous remercions Stéphane pour sa participation enrichissante. Sans tarder davantage, nous passons à notre méditation biblique. Après la lecture du psaume 16, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi.
L'idolâtrie était couramment pratiquée à l'époque de l'auteur de ce psaume. Mais malgré le contexte dans lequel il vivait, cet homme résolut de ne pas rendre un culte aux idoles et de ne leur offrir aucun sacrifice. Pourquoi ? Parce qu'il savait que suivre ces faux dieux n'apporte que désespoir et confusion. Il savait que toute pratique idolâtre ou occulte amène tôt ou tard angoisse et malheur. C'est pourquoi il parle de son désir d'éviter les tourments. Ceux qui nous encouragent à participer aux conduites idolâtres cherchent en fait à nous dominer, à nous rendre esclaves de ces pratiques et d'eux-mêmes. Leurs propos peuvent sembler mielleux et séducteurs, mais ils sont en fait trompeurs et dangereux. Quant à l'auteur du psaume, il préfère afficher son profond attachement au vrai Dieu, l'Éternel. Il en fait l'éloge et il nous donne de bonnes raisons pour qu'à notre tour, nous mettions notre foi en lui. Tout d'abord, si les faux dieux apportent le tourment et le malheur, s'attacher à Dieu devient source de bonheur et de joie. Si les faux dieux amènent l'angoisse et la peur, l'Éternel est celui qui donne la paix et l'assurance. Si les idoles nous trompent et nous mentent, l'Éternel nous ouvre à sa sagesse et ses conseils sont bienfaisants et dignes de confiance. Celui qui pratique l'idolâtrie s'expose à une multitude de dangers, tandis que celui qui met sa foi en Dieu trouve auprès de lui un refuge et un abri sûr. Enfin, celui qui pratique l'idolâtrie finira par vivre en enfer, alors que celui qui, par la foi, s'attache à l'Éternel recevra un héritage éternel. Certains prétendent que l'Ancien Testament ne mentionne jamais la résurrection et la vie éternelle. Ce psaume semble pourtant bien en parler, car l'auteur affirme avec force et espérance « Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Le psalmiste a compris la réalité de l'existence et il a fait son choix, celui de mettre sa confiance en Dieu. Alors, nous vous encourageons, chers auditeurs, à suivre son exemple, à tourner le dos aux faux dieux et à mettre votre foi en l'Éternel.
Merci pour votre participation enrichissante tout au long de cette série sur les psaumes qui, aujourd'hui, touche à sa fin.
La prochaine fois, nous commencerons une série sur un sujet fort important, la résurrection de Jésus-Christ. En attendant de vous retrouver, chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.